Quand le délégué éteignit l'écran holographique, l'audience n'était en réalité pas tout à fait terminée. Luoji avait noté que quand le président avait annoncé la fin de la réunion, une voix féminine avait soudain retenti. Il n'avait pas entendu ce qu'elle disait, mais tous les membres avaient tourné la tête dans la même direction. C'était à ce moment-là que Jonathan avait coupé la transmission. Lui aussi avait dû l'entendre, mais le président ayant levé la séance, Luoji, qui était redevenu un citoyen ordinaire, n'était pas autorisé à y participer, quand bien même celle-ci n'était pas encore terminée. C'était Keiko Yamasugi qui avait parlé.
« Monsieur le Président, j'aimerais dire quelque chose.
Docteur Yamasugi, vous n'êtes pas colmateur. C'est seulement en raison de votre statut particulier que vous avez été autorisé à assister à cette séance. Mais vous n'avez pas le droit d'y prendre la parole. »
Les représentants présents dans l'auditorium, n'éprouvant aucun intérêt pour Keiko Yamasugi, commencèrent à se lever pour quitter la salle. Pour eux, le programme colmateur n'était qu'une bagatelle laissée par l'histoire et sur laquelle il ne valait pas la peine de s'apesantir. Mais ce qu'elle révéla ensuite coupa court à leur désir de partir. Elle se tourna vers Heinz.
« Colmateur Bill Heinz, je suis ton fissureur. »
Heinz, qui venait de se lever, sentit ses deux jambes flancher en entendant la phrase de Keiko et il se rassit sur sa chaise. Dans l'auditorium, les membres échangèrent des regards et de légers murmures commencèrent à se faire entendre, tandis que le visage de Heinz pâlissait peu à peu.
« Mesdames et messieurs, j'espère que vous n'avez pas oublié la signification de ce terme !»
lança-t-elle froidement à l'assemblée.
« Non ?» fit le président. « Nous savons ce qu'est un fissureur, mais votre organisation n'existe plus. »«
Je sais, »
affirma-t-elle avec beaucoup de sérénité.
« Mais en tant que dernier membre de l'organisation Terre Trisolaris, je me dois d'assumer ma responsabilité devant les dieux. »«
J'aurais dû y penser plus tôt, Keiko. J'aurais dû y penser plus tôt, »
balbutia Heinz, la voix tremblante. Il paraissait faible. Il savait depuis longtemps déjà que son épouse était une adepte des thèses de Timothy Leary, militant pour l'utilisation thérapeutique du LSD, et il connaissait son désir fanatique de modifier les pensées humaines par la technologie. Mais il n'avait jamais fait la connexion avec une possible haine profonde et enfouie de l'humanité.
Ce que je voudrais d'abord expliquer, c'est que le véritable objectif de ton plan n'a jamais été d'élever l'intelligence de l'humanité. Mieux que quiconque, tu savais que dans un avenir envisageable, les technologies humaines ne permettraient pas d'atteindre ce but. Car tu es celui qui a découvert la structure quantique du cerveau. Tu étais parfaitement conscient que l'étude des mécanismes de la pensée devait forcément passer par le niveau quantique, et que, dans une situation où les sciences fondamentales étaient bloquées par les intellectrons, c'était comme chercher de l'eau sans source. Il ne pouvait y avoir aucun succès. Quant au poinçonnage de la pensée, ce n'est nullement un heureux produit dérivé de tes recherches sur la pensée, mais ce que tu cherchais à obtenir depuis le début, c'était le but ultime de tes recherches. »
Elle se tourna vers l'assemblée.
« Mesdames et messieurs, pourriez-vous maintenant me dire ce qu'il est advenu du poinçonnage mental pendant toutes ces années que nous avons passées en hibernation ?»«
Son histoire n'a pas duré longtemps, » expliqua le représentant de la flotte européenne. À l'époque, près de 50 000 personnes issues de toutes les armées spatiales nationales ont accepté de se faire poinçonner la foi dans la victoire. Ils formaient un groupe spécial au sein des flottes spatiales qu'on appelait le clan des poinçonnés. Plus tard, environ 10 ans après votre entrée en hibernation, le poinçonnage mental a été décrété crime contre la liberté de penser par la Cour de justice internationale. L'unique poinçonneur mental du centre de la foi a été verrouillé et la production comme l'utilisation d'un tel équipement ont été interdites à l'échelle planétaire. Le niveau de surveillance a été le même que celui contre la prolifération des armes nucléaires. Mais en réalité, il est bien plus dur d'acquérir un équipement de poinçonnage mental qu'une bombe nucléaire, principalement en raison du supercalculateur utilisé. Au moment où vous êtes entré en hibernation, les technologies de calcul ont cessé de progresser.
L'ordinateur utilisé à l'époque pour le poinçonnage mental est encore aujourd'hui considéré comme un supercalculateur et il est totalement inaccessible à un individu et à une organisation ordinaire.
Keiko Yamasugi délivra alors une information lourde de conséquences.
Ce que vous ignorez, c'est qu'il existait plus qu'une seule machine de poinçonnage mental. 5 ont en tout été fabriquées et équipées du même supercalculateur. Les 4 autres ont été secrètement remises par Heinz à des individus ayant déjà subi l'opération, appartenant à ce clan des poinçonnés dont vous avez parlé. Ils n'étaient certes que 3000 à l'époque, mais ils formaient déjà au sein des différentes armées spatiales une organisation secrète, dépassant les frontières nationales. Cela, Heinz ne me l'a pas dit, je l'ai appris des intellectrons. Mais les dieux ne se préoccupant nullement du triomphalisme, nous n'avons engagé aucune action.
Et en quoi cela nous intéresse-t-il?
Essayons de deviner ensemble, voulez-vous? Un poinçonneur mental n'est pas un équipement opérant en continu. Il n'est activé que lorsque c'est nécessaire. Cela signifie que chaque machine peut être utilisée pendant un certain temps. Bien entretenue, elle est capable de fonctionner durant au moins un demi-siècle. Si les poinçonneurs ont été utilisés à tour de rôle, l'un ne remplaçant le précédent que lorsqu'il était hors service, le poinçonnage mental a pu se poursuivre pendant 2 siècles. Par conséquent, le clan des poinçonnés n'est peut-être pas éteint et a au contraire continué à se développer de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Ce serait devenu une sorte de religion dont la foi est inculquée par un processus de poinçonnage et dont la cérémonie d'initiation consiste à se porter soi-même volontaire pour être manipulé mentalement.
Le représentant de la flotte nord-américaine prit la parole.
Colmateur Heinz, vous avez été déchu de votre identité de colmateur et vous n'êtes plus autorisé à mentir. Veuillez dire la vérité au comité. Confirmez-vous ce que vient de dire votre épouse? Ou votre fissureur?
Oui, dit Heinz en hochant lourdement la tête.
C'est un crime, s'emporta le représentant de la flotte asiatique.
Peut-être, mais comme vous, j'ignore si le clan des poinçonnés a perduré jusqu'à aujourd'hui.
Ce n'est pas si important, trancha le représentant de la flotte européenne. Notre prochaine étape consistera simplement à mettre la main sur les équipements de poinçonnage mental restants, à les verrouiller ou bien à les détruire.
Quant aux poinçonnés, s'ils se sont portés volontaires pour subir cette opération, cela n'enfreint aucune loi actuelle. S'ils ont procédé au poinçonnage mental sur d'autres volontaires, c'est qu'ils étaient déjà sans doute sous l'influence de la foi ou de la croyance que la technologie avait imprimée dans leur cerveau. Ils ne peuvent donc pas être jugés responsables de leurs actes. C'est pourquoi la seule chose que nous avons besoin de faire, c'est de trouver les machines. Il n'y aura pas besoin de traquer les poinçonnés.
Je suis d'accord. Ce n'est pas une si mauvaise chose qu'il existe au sein des flottes des soldats fermement convaincus de la victoire. Du moins, ça ne provoquera aucun dégât. Cela peut rester dans le domaine de la sphère privée. Nous n'avons même pas besoin de connaître leur identité. Et puis, il serait étonnant aujourd'hui que des volontaires viennent encore se faire poinçonner cette fois, puisque la victoire de l'humanité est une quasi-certitude.
Keiko Yamasugi ricana soudain, arborant une expression qu'on ne voyait plus que rarement à cette époque, offrant aux membres du comité le tableau ancien d'un clair de lune se reflétant sur les écailles d'un serpent tapis dans les fourrés.
« Vous êtes trop naïf !» lâcha-t-elle.
« Vous êtes trop naïf !» répéta Heinz en écho à son épouse, puis il baissa à nouveau lourdement la tête. Keiko Yamasugi se tourna vers son époux.
« Bill, tu n'as jamais cessé de me dissimuler tes pensées, même avant que tu deviennes colmateur. »
« J'avais peur que tu me méprises, » bredouilla Heinz, la tête toujours basse.
« Combien de fois nous sommes-nous dévisagés en silence dans ce bosquet de bambous éclairé par la lune de notre maison de Kyoto? Dans tes yeux, j'ai vu la solitude d'un colmateur, j'ai vu ton désir intense de te confier à moi. Combien de fois as-tu failli me dire la vérité? Tu voulais plonger la tête dans ma poitrine, tout me révéler en pleurant, à être enfin libéré. Mais ton devoir de colmateur t'en empêchait. Mentir même à la personne que tu aimais le plus au monde faisait partie de ton devoir. Par conséquent, je n'avais que tes yeux pour chercher des indices de tes pensées réelles. Tu ignores combien de nuits d'insomnie j'ai pu passer à attendre à côté de toi, à attendre que tu parles dans ton sommeil. Plus souvent encore, je t'observais minutieusement. J'étudiais le moindre de tes mouvements, je capturais le moindre de tes regards, y compris ces années pendant lesquelles tu es pour la première fois entré en hibernation. Je me suis remémoré chaque détail de toi, pas parce que tu me manquais, mais pour percer tes véritables pensées. Pendant tout ce temps, j'ai échoué. Je savais que tu portais un masque, mais j'ignorais qui se cachait derrière. Les années ont passé, jusqu'à ce jour, lorsque tu t'es réveillé de ton hibernation et que tu as marché à travers la brume du réseau de neurones pour venir me rejoindre. J'ai regardé tes yeux et j'ai enfin compris. Pendant 8 ans, j'avais gagné en maturité, tandis que toi, tu étais encore le même. Et tu t'es dévoilé. À partir de cet instant, j'ai su qui tu étais vraiment. Un défaitiste enraciné, un évasionniste résolu. Avant comme après ton investiture de colmateur, ton seul objectif a toujours été d'organiser la fuite de l'humanité. Ton intelligence par rapport aux autres colmateurs n'a pas été de mentir sur ta stratégie, mais de cacher, de camoufler ta réelle vision du monde. Mais j'ignorais toujours comment tu comptais te servir de tes recherches en neurosciences pour atteindre cet objectif. Même après la découverte du poinçonnage mental, j'étais encore perplexe jusqu'au moment où, juste avant d'entrer en hibernation, je me suis souvenu de leurs yeux, ceux des individus qui venaient d'être poinçonnés. Et j'ai soudain compris que j'avais lu dans leur regard ce que je n'avais jamais pu lire dans le tien. C'est ainsi que j'ai pu mettre à jour ta stratégie réelle, mais il était déjà trop tard pour le dire.
« Madame Keiko Yamasugi, » dit le représentant de la flotte nord-américaine, « je ne crois pas qu'il se soit vraiment passé quelque chose d'anormal à ce moment-là. Nous connaissons tous l'histoire du poinçonnage mental. » Pour ce qui est des 50 000 premiers volontaires, l'opération a été menée sous très étroite surveillance.
En effet, dit Keiko. Mais la surveillance se montrait surtout efficace en ce qui concernait le contenu de la profession de foi. Il était beaucoup plus dur de superviser le processus même du poinçonnage.
Mais les documents historiques précisent bien que la supervision de tous les détails techniques de l'opération était extrêmement rigoureuse. De nombreux essais avaient été effectués avant sa mise en route officielle, rétorqua le président.
Keiko Yamasugi secoua légèrement la tête. Le poinçonneur mental est une machine extrêmement complexe. Aucune supervision n'est à l'abri d'une négligence, surtout si elle ne concerne que l'ajout d'un signe négatif dans un code comportant plusieurs centaines de millions de lignes de chiffres. Ce petit signe, même les intellectrons n'ont pas su le détecter.
Un signe négatif ?
En découvrant le mode de transmission neuronale à l'origine de la production de jugement de la véracité d'une proposition, Bill Hines a aussi découvert celui du jugement de la non-véracité. C'était précisément ce deuxième mécanisme dont il avait besoin. Il s'est bien gardé de dévoiler cette découverte, y compris à moi. Ce n'était pas dur, car les deux modèles étaient très similaires. Dans le mode de transmission, la différence se fait dans la direction prise par le flux du signal clé. Tandis que dans la modélisation mathématique du poinçonnage mental, ce qui change, c'est un signe, positif ou négatif. Un signe positif indique que la proposition est vraie, un signe négatif que la proposition est fausse. Hines a secrètement manipulé le code du logiciel de poinçonnage mental. Dans les 5 machines, il a remplacé le signe positif par un signe négatif.
Un silence de mort s'empara de la salle. Un tel silence était déjà apparu 2 siècles plus tôt lors d'une séance d'audience de colmateurs au Conseil de défense planétaire, celle lors de laquelle Ray Diaz avait exhibé le berceau accroché à son poignet et menacé les participants de déclencher une explosion dans la ville de New York.
« Docteur Hines, vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait ?»
rugit le président en le foudroyant du regard. Hines releva la tête et tous purent voir que la pâleur avait disparu de son visage. Sa voix était calme et résolue.
J'avoue, j'ai sous-estimé la puissance de l'humanité. Les progrès réalisés sont incroyables. Je les ai vus, j'y crois, et je crois aussi que les humains seront les vainqueurs de cette ultime bataille.
Cette foi est maintenant presque aussi forte que si elle avait été poinçonnée dans mon esprit. Le défaitisme et l'évasionnisme d'il y a 2 siècles étaient 2 choses ridicules. Cependant, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, je veux dire au monde entier qu'il ne me sera jamais possible de me repentir de cette action.
Ne croyez-vous pas que vous devriez ? Demanda avec colère le représentant de la flotte asiatique.
Heinz leva la tête. Ce n'est pas une question de devoir. C'est que je ne peux pas. Je me suis moi-même fait poinçonner la proposition suivante. Tout ce que je fais en tant que colmateur est juste.
L'assemblée échangea des regards surpris, même Keiko Yamasugi qui regarda son époux avec une mine étonnée.
Heinz sourit à Keiko Yamasugi et hocha la tête.
« Oui, ma chérie, si tu me permets encore de t'appeler ainsi. Ce n'était qu'en agissant de la sorte que je pouvais obtenir la force mentale suffisante pour mener à bien mon plan. Oui, je considère aujourd'hui avoir agi justement, j'y crois dur comme fer, peu importe la réalité. » J'ai utilisé le poinçonnage mental pour faire de moi un dieu, et un dieu ne peut pas se repentir.
Dans un avenir proche, lorsque l'envahisseur trisolarien aura rendu les armes devant la puissance de la civilisation humaine, le croirez-vous encore ? Demanda le président, dont la colère s'était muée en curiosité.
Heinz hocha très sérieusement la tête.
Je le croirai encore. Tout ce que j'ai fait en tant que colmateur était juste. Bien entendu, devant l'évidence des faits, je vivrai des souffrances dignes de l'enfer.
Il se tourna vers Keiko.
Ma chérie, tu sais que j'ai déjà subi ce genre de torture du temps où j'étais persuadé que l'eau était toxique.
Mais revenons au présent, dit le représentant de la flotte nord-américaine en interrompant leur murmure. Le fait que le clan des Poinçonnés ait survécu jusqu'à nos jours est une simple hypothèse. Après tout, plus de 170 ans se sont écoulés. Si une portion ou une organisation avec une telle détermination défaitiste existait encore aujourd'hui, pourquoi n'en aurions-nous jamais vu la trace ?
Il y a 2 réponses possibles, fit le représentant de la flotte européenne. La première, c'est que le clan des Poinçonnés a bel et bien disparu depuis des lustres, et dans ce cas, nous n'avons effectivement pas à nous en inquiéter.
Le représentant de la flotte asiatique compléta sa phrase. La deuxième ? Et c'est de loin la plus terrifiante, c'est que nous n'en avons jamais vu la trace.
Luoji et Shixiang marchaient dans la ville souterraine ombragée par les architectures arboricoles, tandis que des flots de voitures volantes filaient dans le ciel à travers les fissures des arbres. Les bâtiments de la ville étant des feuilles suspendues en l'air, le sol de la surface était très dégagé et les troncs géants éparpillés loin les uns des autres donnaient l'impression que la ville ne possédait aucune rue, comme si c'était une place infinie sur laquelle reposaient des troncs d'arbres. L'environnement à la surface était très agréable. Il y avait de longues bandes de pelouses et même des petites forêts avec des vrais arbres. Avec le fond d'air frais, on se serait presque cru dans un splendide paysage bucolique. Les piétons étaient tous vêtus d'habits étincelants et circulaient entre Luoji et Shixiang comme des fourmis irradiées. Luoji était fasciné par cette conception architecturale urbaine qui parvenait à contenir le bruit et le trafic dans les airs en laissant le sol retourner à la nature. Ici, on ne voyait pas l'ombre de la guerre. Tout n'était que confort et plénitude. Il n'était pas allé bien loin lorsque Luoji entendit soudain une angélique voix de jeune fille.
« Monsieur Luoji ?»
Il jeta un œil autour de lui et découvrit que la voix provenait d'un grand panneau publicitaire installé sur la pelouse, au bord de la route. Une séduisante jeune femme en uniforme le regardait depuis l'image animée du panneau.
« C'est moi, » répondit Luoji dans un hochement de tête.
« Bonjour, je suis votre conseillère financière 8065 du système de la Banque Générale. » Permettez-moi maintenant de vous notifier votre situation financière.
Un tableau de données apparut à côté de la conseillère.
Vous pouvez consulter ici vos dossiers financiers depuis l'an 9 de la grande crise, y compris l'évolution de vos dépôts dans la Industrial and Commercial Bank of China et la China Construction Bank, et celle de vos actions cotées en bourse. Toutefois, je dois vous informer que certains de vos titres ont pu être perdus pendant la période du Grand Ravin.
Comment a-t-elle pu savoir que j'étais ici ? Demanda Luoji à voix basse.
Ils ont implanté une puce dans votre bras gauche. Ne vous inquiétez pas, tout le monde en a aujourd'hui, c'est un peu votre carte d'identité. C'est comme ça que les panneaux publicitaires vous reconnaissent. Toutes les publicités sont personnalisées aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où vous allez, vous avez des panneaux dans ce genre qui s'affichent devant vous.
Ayant visiblement entendu Shitsiang, la conseillère financière s'empressa de préciser.
« Monsieur Luoji, cela n'est pas une publicité. C'est un service financier offert par la Banque Générale. »«
Combien ai-je aujourd'hui en dépôt ?» demanda Luoji. La conseillère fit apparaître un diagramme extrêmement complexe.
« Voici la situation de tous vos comptes rémunérés depuis l'an 9 de la crise trisolarienne. Vous aurez sans doute besoin de temps pour les déchiffrer, mais ces informations restent consultables en vous connectant sur votre compte personnel. »
Un autre tableau, plus simple, s'afficha.
« Voici actuellement le solde de tous vos comptes du système de la Banque Générale. »
Luoji n'avait absolument aucune idée de ce que représentait aujourd'hui un tel montant, et il demanda avec le regard vide.
« C'est... beaucoup ?»«
Vieux frère, vous êtes un homme riche !»
cria Shitsiang en lui donnant une grande tape sur le dos.
« De mon côté, je n'ai pas autant que vous, mais je ne suis pas mal loti non plus. Hé hé, des intérêts sur 2 siècles, ça c'est de l'investissement à long terme !» Les pauvres gars de notre époque se retrouvent aujourd'hui pleins aux as. Je regrette juste de n'avoir pas épargné encore plus à l'époque.
Mais ne trouvez-vous pas ça un peu étrange ? Demanda Luoji, dubitatif.
Comment ça ?
L'interrogea la conseillère financière en regardant Luoji avec ses jolis yeux.
Cela fait plus de 180 ans. N'y a-t-il jamais eu aucune inflation ? Le système financier n'a-t-il donc connu aucun remous ?
Des remous, il y en a eu plus que tout ce que vous pourrez jamais imaginer,
lâcha Shitsiang en secouant la tête. Puis il sortit un paquet de cigarettes de sa poche. Luoji put constater que le tabac existait encore, à la différence près que Shitsiang pouvait fumer sans avoir eu besoin d'allumer la cigarette.
Il y a eu toute une série d'inflations pendant le grand ravin,
expliqua la conseillère.
Les systèmes de finances et de crédit ont bien failli s'effondrer, mais conformément à la loi, l'intérêt des dépôts des hibernautes est calculé sans prendre en compte la période du grand ravin. Le solde des dépôts est directement transféré au niveau financier de la période post-grand ravin, moment à partir duquel nous commençons à calculer les intérêts.
C'est extraordinaire de pouvoir bénéficier de tels avantages, s'exclama Luoji.
« C'est une bonne époque, vieux frère !» résuma Shitsiang en crachant une bouffée de fumée blanche.
Puis il leva la cigarette encore allumée.
« À part pour les cigarettes, elles sont infectes !»«
Monsieur Luoji, ce n'était aujourd'hui qu'une première prise de contact. Nous pourrons rediscuter de vos futurs placements et projets d'investissement quand vous aurez le temps. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous dis au revoir !»
La conseillère lui sourit et le salua de la main.
« J'ai une question !» se hâta de dire Luoji.
Il ne savait pas comment interpeller la jeune femme. L'appeler « mademoiselle » était risqué, car le sens que revêtait ce mot à cette époque n'était peut-être plus le même. « Madame » ne semblait pas très approprié, car c'était davantage une appellation pour les femmes plus âgées. Il choisit donc de se passer de formule de politesse.
« Je ne suis pas encore très familier des réalités de cette époque, veuillez me pardonner si ma question vous froisse. »
La conseillère lui adressa un sourire.
« Ne vous en faites pas. Notre mission est de vous aider à vous familiariser le plus vite possible avec notre temps. »
« Êtes-vous une personne réelle, un robot ou bien un programme ?»
Elle ne parut pas s'offusquer et répondit simplement
« Je suis réelle, bien sûr. » Comment un programme informatique pourrait-il traiter des tâches aussi complexes ?
Après que la jeune femme eut disparu, Luoji confia à Shitsiang.
Dashi, il y a des choses que j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est une époque où l'on a inventé le moteur perpétuel et la synthétisation des aliments, mais les technologies informatiques ne semblent pas avoir beaucoup progressé. L'intelligence artificielle n'est même pas capable de traiter de banales tâches financières.
« Le moteur perpétuel ?
Vous voulez dire des machines qui peuvent durer indéfiniment ?
Demanda Dashi.
Oui, c'est la découverte de l'énergie infinie.
Shi Xiang regarda tout autour de lui.
Où est-ce que vous avez vu ça ?
Luoji pointa le flot de voitures volantes.
Regardez ces voitures, utilisent-elles de l'essence ou des batteries électriques ?
Dashi secoua la tête.
Ni l'un ni l'autre. Il n'y a plus de pétrole et les voitures peuvent voler sans avoir besoin d'être rechargées. Elles ne sont jamais en panne. C'est de la bonne qualité. Je pensais justement m'en acheter une.
Mais comment pouvez-vous être aussi indifférent devant ce miracle de la technologie ? Les humains ont trouvé l'énergie illimitée. C'est un événement aussi important que lorsque Pangu a ouvert le ciel et la terre. Vous ne réalisez donc pas dans quel âge grandiose nous nous trouvons ?
Shi Xiang jeta son mégot de cigarette.
Il s'arrêta un instant et se fit la réflexion que ce n'était pas très convenable.
Il ramassa le mégot tombé sur la pelouse et alla le jeter dans une poubelle un peu plus loin.
« Indifférent. Ce sont les intellectuels comme vous qui avaient un peu trop d'imagination. Cette technologie, nous l'avions déjà à notre époque. »«
Vous plaisantez ?»«
Je suis loin d'être un expert, mais par pure coïncidence, j'ai eu l'occasion d'utiliser dans le temps un micro-policier sans pile, mais dont l'autonomie était illimitée.
Vous devez avoir une idée de comment ça marchait, non ?
On lui fournissait de l'électricité en lui balançant des micro-ondes à distance.
C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, c'est juste que les méthodes sont un peu différentes. »
Luoji resta sans voix. Il observa Shi Xiang pendant un long moment avant de lever la tête pour regarder les voitures volantes.
Il repensa au verre chauffant. Il comprenait enfin. Il n'y avait pas d'énergie infinie. L'électricité était fournie par des micro-ondes ou des rayonnements électromagnétiques émis depuis une zone formant un champ d'électricité, à partir duquel chaque équipement électrique pouvait absorber de l'énergie via une antenne ou une bobine de résonance. Comme venait de le dire Shi Xiang, c'était une technologie très commune de siècles plus tôt, mais qui était restée assez peu utilisée, car la perte était trop grande. Seule une petite portion de l'énergie émise au sein d'un espace pouvait être utilisée, le reste était perdu. Mais à cette époque, en raison de l'arrivée à maturité de la technologie de fusion nucléaire contrôlée, les sources d'énergie étaient déjà très riches, et les pertes induites par l'alimentation électrique sans fil étaient acceptables.
Et pour ce qui est de la synthétisation des céréales, y sont-ils vraiment arrivés ?
Demanda Luoji. Je n'en suis pas très sûr, mais il y a toujours des semences, c'est simplement qu'elles sont élevées dans des cuves industrielles. Les cultures sont toutes génétiquement modifiées. Il paraît que pour le blé, il n'y a que des épis et plus de tiges. Les céréales poussent à toute vitesse grâce à des rayons de soleil artificiels très puissants et des sortes de radiations qui accélèrent leur croissance. Les récoltes se font une semaine après les plantations. Vu de l'extérieur, on dirait que c'est de la production industrielle à la chaîne.
Oh, soupira Luoji. C'était comme si une myriade de bulles de savon avait éclaté devant ses yeux, dévoilant la vraie nature de la réalité. Quelque grandiose que fût cette nouvelle époque, les intellectrons flottaient toujours, omniprésents. Les sciences humaines étaient toujours verrouillées, et les technologies actuelles encore incapables de franchir la limite qu'il lui imposait.
Et les vaisseaux spatiaux atteignant 15% de la vitesse de la lumière. Par contre, ça, il n'y a aucun doute. Quand ils sont en opération, ce sont comme des petits soleils dans le ciel. Et puis il y a aussi l'armement. Avant-hier, à la télévision, j'ai regardé un reportage sur les exercices de la flotte asiatique. Un de leurs canons laser a pulvérisé une cible de la taille d'un porte-avions. La moitié de ce gros engin en ferraille a fondu comme un glaçon et l'autre est partie en feu d'artifice de métal en fusion. Les vaisseaux sont aussi équipés de canons électromagnétiques qui peuvent tirer plus de 100 projectiles en métal à la minute, tous de la taille d'un ballon de football et à une vitesse d'une dizaine de kilomètres par seconde. En quelques minutes, ils pourraient détruire une montagne sur Mars. Alors il n'y a peut-être pas le moteur perpétuel dont vous parliez, mais avec ces gadgets, l'humanité a largement de quoi mettre Trisolaris à genoux.
Shi Xiang tendit une cigarette à Luoji et lui apprit à l'allumer en tordant le filtre. Ils fumèrent chacun une bouffée et regardèrent les volutes blanches de la fumée tourbillonner dans les airs.
« Quoi qu'il en soit, vieux frère,
c'est une bonne époque.
Oui, une bonne époque.
Luoji venait à peine de prononcer ces mots que Shi Xiang se jeta sur lui et tous deux roulèrent sur la pelouse quelques mètres plus loin. S'ensuivit aussitôt un bruit tonitruant. Une voiture volante s'écrasa à l'endroit même où il se trouvait l'instant d'avant. Luoji put sentir le souffle de l'impact. Des débris de métal fusèrent au-dessus d'eux, emportant la moitié du panneau publicitaire et projetant sur le sol des morceaux des tubes en verre de l'écran. Étourdi et ébloui par l'explosion, Luoji n'avait pas encore tout à fait recouvré ses esprits que Shi Xiang s'était relevé d'un bond et rué en direction de la voiture. Il vit que le véhicule en forme de disque était déjà complètement défiguré. Les voitures modernes n'utilisant plus d'essence, celle-ci n'avait toutefois pas pris feu. Seul le crépitement de quelques étincelles électriques s'échappait de cette carcasse métallique tordue.
« Il n'y avait personne dans la voiture !»
lança Shi Xiang à Luoji qui approchait en boitillant.
« Dashi, vous m'avez encore sauvé la vie !»
s'exclama-t-il en s'appuyant sur l'épaule de Shi Xiang et en massant sa jambe blessée dans la chute.
« Je ne sais pas combien de fois je devrais encore le faire, mais vous avez intérêt à ouvrir l'œil, de jour comme de nuit. »
Il pointa l'épave de la voiture volante.
« Ça ne vous rappelle rien ?»
Luoji se remémora cet accident qui avait eu lieu 2 siècles plus tôt. Il fut pris d'un frisson irrépressible. De nombreux piétons avaient fait cercle autour d'eux. Leurs vêtements projetaient des scènes de terreur. 2 véhicules de police, sirènes hurlantes, atterrirent à proximité. Quelques agents en descendirent et tendirent un ruban de sécurité autour de la voiture. Leurs uniformes clignotaient comme leurs gyrophares et faisaient pâlir les vêtements des badauds. L'un des policiers s'approcha de Shi Xiang et de Luoji. Son uniforme était si éblouissant que tous deux peinaient à garder les yeux ouverts.
« Vous étiez à côté au moment où la voiture s'est écrasée, vous n'avez pas été blessé ?»
demanda l'agent avec sollicitude. Il avait de toute évidence remarqué qu'ils étaient hibernautes et s'étaient efforcés de parler en chinois ancien. Sans attendre la réponse de Luoji, Shi Xiang tira le policier et l'entraîna en dehors de la zone sécurisée, loin de la foule. Une fois éloigné, l'uniforme du policier cessa de clignoter.
« Il faut faire une enquête, c'est peut-être une tentative de meurtre, »
expliqua-t-il. L'officier se mit à rire.
« Vraiment ? Mais enfin, c'est un simple accident de la circulation. » « Nous souhaitons faire une déclaration. »«
En êtes-vous sûr ?»«
Bien sûr, nous faisons une déclaration. » »«
Vous dramatisez un peu, je comprends que vous ayez été choqué, mais je vous assure que c'est un banal accident. »«
Néanmoins, conformément à la loi, si vous insistez pour « nous insistons ». »
Une interface s'afficha au niveau de la manche du policier. Il fit apparaître une fenêtre d'information, la lut et indiqua.
« La déclaration a été faite. » « Vous serez suivi par la police pendant les prochaines 48 heures, mais il nous faut votre autorisation. »« Nous sommes d'accord, nous sommes peut-être encore en danger. »
Le policier rit à nouveau.
« Vous savez, ce genre d'accident arrive souvent. »«
Souvent ?
Laissez-moi vous poser une question. Combien d'incidents de ce genre se produisent en moyenne par mois dans cette ville ?»«
Il y en a eu 6 ou 7 l'an dernier. »
« Je vais vous dire, officier, dans cette ville, à notre époque, il y en avait plus que ça tous les jours.
À votre époque, les voitures roulaient à la surface. J'ose à peine imaginer combien c'était dangereux.
Bien, vous êtes à présent sous protection policière, vous serez informé du progrès de l'investigation, mais croyez-moi, c'était un simple accident de la route. Avec ou sans déclaration, vous recevrez dans tous les cas un dédommagement. »
Après avoir laissé les policiers et la scène de l'accident derrière eux, Shi Xiang confia à Luoji.
On ferait mieux de rentrer chez moi, je ne me sens pas en sécurité dehors. Ce n'est pas loin, allons-y à pied. Maintenant, les taxis sont sans conducteur, ce n'est pas très prudent.
Mais l'OTT n'a-t-elle pas été complètement démantelée ? Interrogea Luoji en regardant autour de lui. Au loin, la voiture qui s'était écrasée était emportée par une grande dépanneuse volante. Les badauds s'étaient éparpillés et la voiture de police était repartie. Un véhicule de voirie urbaine avait atterri et quelques employés en étaient sortis pour ramasser les débris et commencer à réparer la portion de route dégradée par l'impact. La petite agitation était retombée et la ville retrouvait son calme agréable.
« Peut-être, vieux frère, mais faites confiance à mon intuition.
Je ne suis déjà plus colmateur.
La voiture ne semblait pas au courant.
En marchant, pensait de temps en temps à lever les yeux.
Ils tâchèrent de rester à l'ombre des architectures arboricoles, et quand il leur fallait traverser des zones dégagées, ils pressaient le pas. Ils arrivèrent bientôt à proximité d'une gigantesque place.
« J'habite en face. Ça serait trop long de la contourner. Allons-y en courant. »
« Est-ce que nous ne sommes pas un peu paranoïaques ? C'était peut-être simplement un vrai accident de la circulation. »«
Comme vous le dites, peut-être. Il n'y a pas de mal à être prudent. Vous voyez cette sculpture au centre de la place ? S'il arrive quelque chose, planquez-vous là-bas. »
Luigi aperçut un carré de sable au centre de la place, comme un désert miniature. La sculpture dont Xixiang avait parlé se trouvait au milieu du sable. C'était un ensemble de piliers noirs, de chacun 2 à 3 mètres de hauteur. De cette distance, on aurait dit un bosquet d'arbres noirs et secs. Luoji suivit Xixiang qui courait pour traverser la place. Arrivé près du carré de sable, il entendit ce dernier crier
« Vite, à l'intérieur !»
Un de ses pieds fut attrapé par Xixiang. Il fit une roulade dans le sable et entra la tête la première dans le bosquet de piliers. Allongé dans le sable chaud, il regarda autour de lui les colonnes sculptées qui pointaient vers le ciel. Il vit soudain une voiture volante faire un piqué et frôler le bosquet avant de remonter et de disparaître dans le ciel. La bourrasque qu'elle avait provoquée dans son mouvement fit se soulever une nuée de grains de sable qui heurta avec bruit les piliers.
« Peut-être qu'elle ne fonçait pas sur nous ?»«
Peut-être, oui. » fit Xixiang,
qui s'était assis et vidait le sable de ses chaussures.
« Est-ce qu'on ne risque pas de se moquer de nous ?»«
De quoi avez-vous peur ? Vous connaissez quelqu'un ici ?»« Et puis, on vient de 2 siècles en arrière. Autant vous dire que rien qu'en vous regardant, les gens d'ici nous trouvent ridicules. »« Vieux frère, soyez vigilants. Et si cet engin-là nous fonçait vraiment dessus ?»
Ce fut à cet instant que Luoji dirigea son attention sur la sculpture au centre de laquelle ils avaient trouvé refuge. Il réalisa que les piliers n'étaient pas des arbres secs, mais des bras jaillissant du désert qui pointaient vers le ciel. Ses bras étaient maigres, ils n'avaient que la peau sur les os, et c'est pourquoi ils pouvaient de prime abord ressembler à des troncs secs. Les mains à leur sommet étaient étrangement recourbées, comme si elles se tordaient de douleur.
« Que représente cette sculpture ?»
Au milieu de ses bras en lutte, Luoji eut un frisson, même s'il était encore tout transpirant d'avoir couru. À l'extrémité de la sculpture, il remarqua une stèle solennelle sur laquelle une phrase était gravée en caractère d'or. « Donner de la civilisation au jour, lorsqu'on ne peut plus donner de jour à la civilisation. »
« C'est le mémorial du grand ravin !» dit Xixiang,
mais il ne parut pas vouloir en dire davantage. Il aida Luoji à se relever et à sortir du sable, puis tous deux traversèrent rapidement l'autre moitié de la place.
« Bien, vieux frère, j'habite sur cet arbre-ci, » expliqua-t-il en désignant l'imposante architecture arboricole.
Tout en marchant, Luoji levait la tête. Il entendit soudain un craquement et tomba dans une faille qui s'était ouverte sous ses pieds. Xixiang la grippa au moment où sa poitrine était déjà au niveau du sol, puis il parvint au prix d'un grand effort à le hisser en dehors. Tous deux regardèrent un peu abrutis le trou béant sur le sol. C'était probablement l'entrée d'un égout dont la bouche avait glissé juste avant que Luoji n'y pose le pied.
« Mon Dieu, monsieur, vous n'avez rien ? C'est vraiment dangereux !»
La voix provenait d'un petit panneau installé à proximité. Celui-ci était fixé à un petit pavillon contenant une machine qui ressemblait à un distributeur de boissons. L'homme qui avait parlé était vêtu d'un bleu de travail. Son visage était très pâle. Il semblait avoir eu encore plus peur que Luoji.
« Je travaille pour le bureau de drainage de la 3e compagnie municipale. La bouche s'est ouverte automatiquement. C'est certainement le logiciel qui a eu un problème. »«
Et ça arrive souvent ?» demanda Xixiang.
« Oh non, non, en tout cas, c'est la première fois que je vois ça !»
Xixiang ramassa un caillou sur la pelouse qui bordait la route et le lança au fond du trou. Il se passa un bon moment avant qu'ils entendent enfin le son de l'impact.
« Bon sang, mais quelle est la profondeur ? »
demanda-t-il à l'homme du panneau publicitaire.
« Environ 30 mètres, c'est pour ça que je dis que c'est dangereux.
J'ai eu l'occasion d'inspecter le système de drainage de la surface. Et si je ne me trompe pas, à votre époque, les égouts étaient peu profonds. La déclaration d'accident a été faite, vous... »
Il jeta un œil sur son col.
« Ah, monsieur Luo, vous recevrez un dédommagement de la part de la troisième compagnie municipale. »
Ils entrèrent enfin dans le hall de l'arbre 1683 où habitait Shixiang. Ce dernier expliqua qu'il vivait sur la branche 106 et proposa de manger d'abord quelque chose au rez-de-chaussée avant de monter. Ils se rendirent dans un des restaurants établis dans le hall. Outre cette impression de propreté digne d'un dessin animé en trois dimensions, une particularité de ce temps, que Luoji avait déjà entrevu au centre de réveil d'hibernation, était encore plus flagrante ici. De partout s'affichaient des fenêtres d'information dynamique. Sur les murs, les tables, les chaises, le sol et le plafond. Certaines jaillissant même sur les verres et les porte-serviettes de table. Tout possédait une interface et un écran avec du texte défilant ou des images dynamiques. C'était comme si ce restaurant entier était un gigantesque écran scintillant d'ordinateur, aussi splendide que complexe. Il y avait peu de clients. Ils choisirent une table près de la fenêtre et s'assirent. Shixiang tapota sur la table, ce qui activa une interface à partir de laquelle il commanda quelques plats.
« Je suis nul en langues étrangères, je ne commande que ce qui est écrit en chinois. »
« Ce monde semble être construit avec des écrans à la place des briques, » soupira Luoji.
« Ça c'est vrai. N'importe quelle surface impolie peut être allumée, » approuva Shixiang en sortant son paquet de cigarettes et en le tendant à Luoji. « Regardez, même ce genre de paquet de cigarettes bon marché. »
Aussitôt qu'il prit le paquet dans ses mains, Luoji vit s'afficher une fenêtre dynamique à sa surface où se trouvaient quelques vignettes qui semblaient être les choix d'une carte de restaurant.
C'est en quelque sorte une espèce de membrane d'affichage, dit Luoji en examinant le paquet.
Une membrane? On peut même se connecter à Internet avec ces gadgets, ajouta Shixiang.
Puis il pianota sur le paquet et la taille de l'image diminua. La publicité qu'il avait sélectionnée recouvrit ensuite tout le paquet. De toute évidence, l'image provenait du passé. Une voix stridente résonna.
« Monsieur Luo, voici l'époque que vous avez vécue. Nous savons qu'en ce temps-là, pouvoir être propriétaire d'un appartement dans la capitale était le rêve de tous les citoyens. Aujourd'hui, le groupe Green Leaves peut vous aider à réaliser ce rêve. » Comme vous l'avez remarqué, en cette époque merveilleuse, les habitations sont devenues des feuilles sur des branches d'arbres. Le groupe Green Leaves peut vous proposer toutes sortes de feuilles.
Sur l'image apparurent des scènes de feuilles accrochées sur des branches d'arbres géants, puis toutes sortes d'étourdissants appartements suspendus, dont l'un, parfaitement translucide, donnait l'impression que ses meubles flottaient dans le vide.
« Naturellement, nous pouvons également faire construire pour vous une maison traditionnelle à la surface afin de vous permettre de regoûter à la douceur de l'âge d'or et de jouir de tout le confort d'un foyer avec votre famille. »
Cette fois, l'image montra une villa entourée d'une pelouse verte, peut-être encore une image du passé. L'annonceur de la publicité parlait un chinois ancien très courant, mais sembla buter sur le mot « famille », sur lequel il donna l'impression d'insister. Et de fait, ce concept n'ayant plus cours à cette époque, il appartenait au passé. Shixiang saisit le paquet de cigarettes des mains de Luoji, en sortit les deux dernières, lui en tendit une, puis il écrasa le paquet entre ses doigts et le jeta en boule sur la table. Une image continuait à scintiller dans cette boule de papier froissé, mais la voix s'était tue.
« Chaque fois que j'arrive quelque part, je commence toujours par éteindre les gadgets que j'ai devant les yeux et autour de moi. Vous ne pouvez pas savoir comme ça m'agace !»
dit Shixiang, et il éteignit avec ses quatre membres les fenêtres apparues sur la table et sous ses pieds.
« Mais eux, ils n'y arrivent pas !»
dit-il en désignant les gens assis aux autres tables.
« Aujourd'hui, il n'y a plus d'ordinateur. Celui qui veut aller surfer sur Internet n'a qu'à trouver une surface un peu plate et tapoter dessus. » Même chose pour les vêtements ou les chaussures. Tout peut servir d'écran. Croyez-moi ou non, j'ai même vu du papier toilette sur lequel on pouvait se connecter.
Luoji prit une serviette. C'était juste un bout de papier qui ne permettait pas d'aller sur Internet,
mais le porte-serviette, lui, s'activa. Une jolie femme y faisait la promotion d'une marque de pansement. Elle avait de toute évidence été mise au courant des mésaventures de Luoji et des éraflures qu'il avait encore aux bras et aux jambes.
« Mon Dieu !» soupira Luoji, puis il replaça la serviette dans le porte-serviette. « C'est cette putain d'époque qu'on devrait appeler l'âge de l'information. À côté, la nôtre, c'était la préhistoire !» rit Xitiang.
Pendant qu'ils attendaient leur repas, Luoji interrogea Dashi sur sa vie. Il se sentit un peu coupable d'avoir autant attendu avant de poser cette question, mais en repassant en mémoire tous les événements du jour, il s'était senti remonter comme une horloge sans cesse poussée vers l'avant. C'était seulement maintenant qu'il avait un peu de temps pour discuter.
« Ils m'ont permis de prendre ma retraite. Je n'y perds pas au change, » répondit simplement Xitiang.
« Qui vous verse votre pension ? Le bureau de la sécurité publique ou bien l'unité que vous avez rejointe plus tard ? Est-ce que ces organismes existent encore ?
Oui, tous les deux. Le bureau de la sécurité publique s'appelle toujours comme ça, mais je n'en faisais déjà plus partie avant mon hibernation. L'unité que j'ai intégrée par la suite appartient aujourd'hui à la flotte asiatique. Comme vous le savez, les flottes sont devenues des genres de nations indépendantes et je suis un étranger maintenant, raconta-t-il en tirant une longue bouffée de sa cigarette et en levant les yeux pour suivre l'ascension de la fumée, comme s'il essayait de résoudre une énigme.
Le sens de nation n'est plus vraiment le même qu'avant. Le monde change, il y a de quoi être désorienté. Mais, Dashi, heureusement que ni vous ni moi ne sommes des ingrats. Nous continuerons à vivre, et à vivre bien, quoi qu'il se passe.
Vieux frère, pour vous dire franchement, il y a des tas de points sur lesquels je n'ai pas votre largeur de vue, ni votre détachement. Si j'avais connu les mêmes soucis que vous, j'aurais craqué depuis longtemps.
Luoji ramassa sur la table le paquet de cigarettes roulées en boule. Il le déplia et constata que l'image était toujours affichée. Elle était simplement un peu décolorée. Elle repassait en boucle la publicité du groupe Green Leaves. Que je sois un messie ou un réfugié, j'arrive toujours à trouver des ressources pour couler la vie la plus tranquille possible. Vous direz peut-être que je suis égoïste, mais honnêtement, c'est la seule chose que j'estime chez moi.
Dashi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez l'air un peu nonchalant comme ça, mais je sais qu'au fond de vous, vous êtes un homme pour qui le sens du devoir est primordial. Laissez donc de côté toutes vos responsabilités, regardez cette époque. Qui a encore besoin de nous ? Profitez du jour présent, c'est ça notre devoir le plus sacré.
Je veux bien, mais si j'avais lâché ma mission, vous ne seriez plus là pour profiter du repas qui va suivre.
Xitiang envoya son mégot dans le cendrier, ce qui activa une publicité pour une marque de cigarettes. Conscient d'avoir été inconvenant, Luoji s'empressa d'ajouter
« Oh, Dashi, c'est vrai, heureusement que vous veillez sur moi. Sans vous, je ne vivrai pas longtemps. Aujourd'hui, vous m'avez déjà sauvé la vie une, deux, trois fois. » Ou plutôt deux fois et demi.
Bah, j'aurais été accusé de non-assistance à personne en danger, non ? C'est le sens de ma vie d'être là pour sauver la vôtre, dit Xitiang d'un air désinvolte, tandis que ses yeux s'égaraient dans le hall, peut-être pour chercher un endroit où acheter des cigarettes.
Puis il ramena son regard vers Luoji et lui glissa à voix basse.
Mais, vieux frère, pendant que vous jouiez le messie, il y a eu un moment où vous vous êtes vraiment pris au sérieux.
Qui à ma place n'aurait pas un peu perdu la boule ? Heureusement, je suis redevenu normal.
Comment vous est venue l'idée de balancer une malédiction à une étoile ?
À cette époque, j'étais complètement paranoïaque. Je ne veux plus penser à ça. Mais, Dashi, croyez-moi ou non, je suis sûr d'une chose. Pendant que je dormais, ils n'ont pas fait que soigner ma maladie. Ils ont aussi guéri mon âme. Vraiment, je ne suis plus le même. Comment ai-je pu être aussi idiot pour avoir eu cette idée ? Ce délire ?
Un délire ? Lequel ? Dites-moi.
C'est difficile à expliquer en une ou deux phrases, et ça n'a plus aucun sens désormais. Dans votre ancien boulot, vous avez dû en croiser des gars qui déliraient, pas vrai ? Entre ceux qui sont toujours persuadés que quelqu'un veut les tuer et ceux qui entendent des voix.
Est-ce que c'est bien intéressant de les écouter parler de leurs hallucinations ?
Lâcha Luoji, tout en déchirant mécaniquement le paquet de cigarettes froissées qu'il tenait dans la main. Cette fois, l'écran était bel et bien détruit, mais des lambeaux continuaient à scintiller de lumière fantaisiste.
« Bon, parlons de quelque chose de plus réjouissant. Mon fils est encore en vie.
Comment ?»
Luoji fut si surpris qu'il manqua de bondir sur sa chaise.
« Je ne l'ai appris qu'avant-hier, c'est lui qui m'a retrouvé. Je ne l'ai pas encore vu, je ne l'ai eu qu'au téléphone.
Il n'est pas...
Je ne sais pas combien de temps il est resté en prison. Toujours est-il qu'il s'est ensuite fait hiberner. Il a dit qu'il voulait me rejoindre dans le futur. Qui sait comment le gamin a pu sortir autant d'argent ? Il habite maintenant à la surface. Nous sommes convenus qu'il viendrait me voir demain. »
Luoji se leva, enthousiaste, faisant tomber les bouts de papier encore papillotant sur le sol.
« Ah, Tachi ! » s'exclama-t-il. « C'est vraiment... Commandons deux bouteilles pour fêter ça. »
« Bien, buvons. Même si l'alcool est devenu infect, il est toujours aussi fort. »
À cet instant, les plats arrivèrent sur la table. Luoji ne reconnut aucun d'entre eux.
« Ne vous attendez pas à ce que ce soit bon. Il reste quelques endroits où on propose des produits fermiers traditionnels, mais ce sont des restos chics. On ira demain avec Xiaoming. »
L'attention de Luoji fut happée par la serveuse. Son visage et son corps étaient si parfaits qu'elle en était presque irréelle. Luoji remarqua que toutes les serveuses qui louvoyaient entre les tables possédaient la même apparence angélique.
Hé, ne restez pas à les regarder bêtement comme ça. C'est du toc, fit Xiang sans même lever les yeux.
Des androïdes ? Demanda Luoji.
Enfin, il voyait dans ce monde du futur quelque chose qu'il avait lu dans les romans de science-fiction.
Dans le genre, oui.
Comment ça, dans le genre ? Xiang pointa du doigt une serveuse androïde.
Ces cruches ne savent faire qu'une chose, apporter les plats. Elles ont des trajets fixes. Vous voulez savoir à quel point elles sont stupides ? Une fois, j'ai vu qu'une table avait été déplacée, mais elles ont continué à apporter les plats à l'emplacement d'origine. Résultat, tout s'est retrouvé par terre.
Quand elle eut déposé les plats, la serveuse leur adressa un délicieux sourire et leur souhaita bon appétit. Sa voix n'était pas celle qu'on aurait imaginée sortie d'un robot, elle était très douce. Puis elle tendit une main délicate et se saisit d'un couteau de service posé devant Xiang. Comme l'éclair, les yeux de Xiang allèrent de la main qui tenait le couteau jusqu'à Luoji. Avec agilité, il bondit, se jeta de tout son long sur la table et poussa violemment la chaise de Luoji. Quasiment au même moment, la serveuse androïde rabattit le couteau à l'emplacement même où aurait dû se trouver le cœur de Luoji. Elle transperça violemment le dossier de la chaise, activant une interface d'information. L'androïde retira son couteau et resta debout à côté de la table, tenant toujours une assiette dans l'autre main. Son sourire sucré n'avait pas quitté son charmant visage irréel. Pris de panique, Luoji se releva tant bien que mal et se réfugia derrière Xiang. Ce dernier secoua la main.
« Ne vous inquiétez pas, ce truc n'est pas aussi adroit. »
Et en effet, la serveuse androïde demeura immobile, toujours souriante, le couteau encore à la main, et souhaita une nouvelle fois un bon appétit à ces messieurs. Des clients affolés s'étaient attroupés autour d'eux, observant la scène avec stupéfaction. La directrice du restaurant arriva précipitamment. En entendant Xiang lui expliquer qu'une de ses serveuses avait commis une tentative de meurtre, elle secoua vivement la tête.
« Monsieur, c'est impossible. Ses yeux ne voient pas les humains. Elle se dirige uniquement grâce aux senseurs installés sur les tables et les chaises. Je peux témoigner. La serveuse a pris un couteau pour poignarder ce monsieur. Nous l'avons tous vu faire !»
intervint quelqu'un. Puis tous les curieux qui s'étaient amassés autour de la scène se dirent également prêts à témoigner. Alors que la directrice s'apprêtait une nouvelle fois à nier, la serveuse poignarda à nouveau le dossier de la chaise. Le couteau transperça avec précision le même trou que celui qu'elle avait fait plus tôt, ce qui suscita des cris d'effroi chez les clients.
« Bon appétit, messieurs !» répéta l'androïde en souriant.
D'autres personnes arrivèrent, dont l'ingénieur du restaurant. Il pressa un bouton sur sa poitrine et l'expression du visage de la jolie serveuse se fit plus grave.
« Arrêt forcé. Donner du point d'arrêt sauvegardé. »
puis elle resta figée sur place.
« Ce doit être une défaillance du logiciel, » expliqua l'ingénieur en essuyant sa sueur.
« Est-ce que ça arrive souvent ?» demanda Shitsiang, sarcastique.
« Non, non, je vous assure, je n'ai jamais entendu parler d'un tel comportement, » répondit l'ingénieur en ordonnant à ses deux assistants d'emporter l'androïde. La directrice du restaurant tenta de donner le change en expliquant au client que, tant que le problème ne serait pas résolu, elle demanderait à de vrais humains d'assurer le service. Mais une bonne majorité d'entre eux avaient déjà quitté l'établissement.
« Monsieur, vous avez eu un réflexe rapide !»
souffla avec admiration quelqu'un de l'assistance.
« Des hibernautes ! De leur temps, ça arrivait souvent, ce genre d'incident !»
fit un autre, dont la veste projetait l'image d'un héros d'arts martiaux. La directrice dit à Luoji et Shitsiang,
« Messieurs, c'est vraiment... Mais je vous garantis que vous obtiendrez un dédommagement.
« Bon, mangeons maintenant. »
Shitsiang fit signe à Luoji de se rasseoir. Des serveurs humains rapportèrent les plats qui avaient été renversés. Assis sur sa chaise, Luoji était muet de stupeur. Il sentait encore avec un certain malaise l'empreinte du trou dans son dossier.
« Daché, on dirait que le monde entier est contre moi. Cette époque me faisait pourtant bonne impression au début. »
Ce dernier examina minutieusement les plats qu'on avait apportés et lâcha
« J'ai mon idée à ce sujet. »
Il releva la tête et servit un verre à Luoji.
« Oublions ça pour l'instant, je vous en reparlerai en détail tout à l'heure. »
« Bien, profitons-en tant que nous sommes encore là. Vivons chaque jour et chaque heure comme si c'était les derniers. »
Luoji leva son verre.
« Trinquons au retour de votre fils. »«
Vous êtes sûr que tout va bien ?»
sourit Shitsiang en regardant Luoji.
« J'ai déjà été le sauveur du monde. De quoi aurais-je peur ?»
fit Luoji en haussant les épaules, puis il vida son verre d'une traite. Il grimaça.
« On dirait de l'alcool à brûler. »
« Vous m'épatez, vieux frère, vous m'avez toujours épaté !»
s'exclama Shitsiang en levant le pouce. La feuille où habitait ce dernier était située au sommet de l'arbre. C'était un appartement très spacieux, avec une gamme d'équipements variés et fonctionnels. Il possédait en outre une salle de fitness et même un jardin intérieur avec une fontaine.
« C'est un logement temporaire que m'a attribué la flotte. Ils m'ont dit que je pourrais m'acheter une feuille encore plus confortable avec ma pension de retraite. »
« Est-ce que tous les gens ont un aussi grand espace de vie de nos jours ?»«
Probablement. Ce type d'architecture utilise au mieux l'espace. Une grande feuille peut occuper à elle seule la superficie d'un immeuble de notre époque. Mais je crois que c'est surtout la population qui est moins nombreuse. Elle a beaucoup décliné après le grand ravin.
Mais « Dashi, votre pays se trouve dans l'espace. »«
Je n'irai pas là-bas. Je suis à la retraite, non ?»
Ici, Luoji sentait que ses yeux allaient beaucoup mieux, principalement parce que la plupart des fenêtres d'information de l'appartement de Shitsiang étaient éteintes, bien qu'il en restât quelques-unes qui clignotaient dans les coins du mur et du sol. Shitsiang fit apparaître une interface en tapant du pied sur le sol. L'un des murs de l'appartement devint transparent et révéla la ville nocturne qui s'étendait devant eux. C'était une forêt gigantesque et scintillante, constituée d'énormes arbres de Noël reliés entre eux par les guirlandes de lumière des véhicules volants. Luoji marcha jusqu'au canapé qui, au toucher, était aussi dur que du marbre.
« Est-ce conçu pour qu'on s'assoie dessus ?» demanda-t-il. Après une réponse affirmative de Shitsiang,
Luoji s'y installa prudemment. Il se sentit alors s'enfoncer dans une boue moelleuse. Les coussins et les dossiers du canapé épousèrent automatiquement ses formes et lui offrirent une surface correspondant parfaitement à son corps, en diminuant la pression au minimum. L'illusion qu'il avait eue deux siècles plus tôt sur le bloc de magnétite de la salle de méditation de l'ONU était devenue réalité.
Auriez-vous des somnifères ?
Demanda Luoji. À présent, dans un espace où il se sentait enfin en sécurité, il était assailli par le sommeil.
« Non, mais on peut en commander ?»
dit Shitsiang, qui activa une interface sur le mur.
« Voilà, des somnifères en vente libre. Il y a cette marque Menge. »
Luoji pensait qu'il assisterait à un autre miracle technologique, tel qu'une transmission de matériel en ligne, mais les choses furent beaucoup plus simples qu'il ne l'avait imaginé. Quelques minutes plus tard, un petit véhicule volant de livraison s'arrêta derrière le mur transparent et un long bras mécanique tendit un paquet depuis une petite trappe apparue plus tôt sur le mur. Luoji prit les somnifères que lui tendait Shixiang. Ils étaient emballés dans une boîte traditionnelle sans le moindre écran actif. Il lut la notice, un seul comprimé par prise. Il ouvrit la boîte, sortit un somnifère et allongea la main pour prendre un verre d'eau posé sur la table basse.
« Attendez !»
Shixiang récupéra la boîte de comprimés dans la main de Luoji et l'examina attentivement avant de la redonner à Luoji.
« Qu'est-ce que vous lisez ? J'avais commandé des somnifères de la marque Menge. »
Luoji vit une longue série de noms de médicaments complexes en anglais.
« Je ne sais pas vraiment, mais je suis sûr que ce ne sont pas des Menge. »
Shixiang activa une fenêtre sur la table basse et commença à chercher un consultant médical. Avec l'aide de Luoji, ils trouvèrent un établissement et furent mis en communication avec un médecin en blouse blanche à qui ils firent lire la notice de la boîte. Après avoir fini d'examiner la boîte, ce dernier toisa Shixiang d'un regard circonspect.
« D'où est-ce que ça vient ?» demanda prudemment le médecin.
« Je les ai achetés sur une plateforme en ligne. »
« Impossible. Ce type de médicament se distribue uniquement sur ordonnance et ne peut être utilisé que dans les centres d'hibernation. »
« Quel est le rapport avec l'hibernation ?»«
C'est un traitement d'hibernation courte qui permet aux patients d'être endormis pour une période allant de 10 jours à 1 an. »
« Il suffit de les avaler ?»«
Non. Après avoir pris un comprimé, il faut être connecté à un système externe qui régulera les fonctions circulatoires du patient et le maintiendra en vie jusqu'à la fin de son hibernation. »
« Et si on le prend comme ça ?»«
Vous mourrez. »
« Mais c'est une mort très agréable, c'est pourquoi ces comprimés sont souvent utilisés pour les suicides. »
Shixiang ferma la fenêtre, jeta la boîte sur la table et après avoir longuement scruté Luoji, il lâcha.
« Putain !»«
Putain !» répéta Luoji avant de s'allonger sur le canapé, sans savoir qu'il s'offrait ainsi à la dernière tentative de meurtre de la journée. Au moment où sa tête toucha le canapé, celui-ci s'adapta rapidement à la forme de sa nuque et commença à façonner un moule à partir de son corps. Mais le processus ne s'arrêta pas là, et la tête et le cou de Luoji continuèrent à s'enfoncer. L'appui-tête forma une paire de tentacules des deux côtés de son cou qui l'agrippèrent à la gorge. Il ouvrit la bouche mais se retrouva dans l'incapacité de crier. Il écarquilla les yeux et essaya de se débattre en agitant ses mains en l'air. Shixiang se leva et fonça dans la cuisine où il saisit un couteau avec lequel il poignarda vigoureusement les deux tentacules, puis à la force des mains les écarta du cou de Luoji. Ce dernier parvint à s'extraire du canapé et roula sur le sol. À la surface du sofa, une série de messages d'erreur se mit à clignoter.
« Combien de fois est-ce que je vous ai sauvé la vie aujourd'hui, vieux frère ?» demanda Shixiang en se frictionnant les mains.
« C'est... « La 6e fois !» finit par balbutier Luoji, encore suffoquant. Puis il vomit sur le sol. Il s'appuya ensuite sans force sur le canapé, mais il s'en éloigna aussitôt comme sous l'effet d'une décharge électrique. Il ne savait même plus où poser les mains.
« Encore combien de fois avant que j'apprenne à être aussi vif que vous pour me sauver moi-même ?»«
Je crains que ce ne soit impossible, » dit Shixiang. Un robot semblable à un aspirateur sortit et alla nettoyer le vomi sur le sol.
« Alors je suis foutu ? Monde de dégénéré !
Je n'ai pas si horrible. Au moins j'ai une idée sur ce qui est derrière tout ça. La première tentative de meurtre a échoué, il y en a eu 5 autres. C'est stupide, ce n'est pas un comportement de pro. Il y a sûrement une erreur quelque part. Nous devons contacter la police immédiatement, nous ne pouvons pas attendre la fin de son enquête. »
Une erreur ? Qu'il aurait commise ?
Dashi, ça fait 2 siècles. Il ne faut pas penser avec nos réflexes anciens.
C'est la même chose, vieux frère. Dans ce genre d'affaires, il y a des points communs, quelle que soit l'époque. Quant à savoir qui commet l'erreur, je n'en sais bigrement rien. Je me demande d'ailleurs si ce « qui » existe vraiment.
À ce moment-là, on sonna à la porte.
Xichang l'entrouvrit et examina les individus devant le palier. Ils étaient tous en civil, mais Xichang les identifia sans même que leur chef ait eu besoin de présenter sa carte.
« Eh bien, je commençais à me demander s'il y avait encore des flics dans cette ville. Entrez, messieurs les officiers. »
Trois d'entre eux passèrent la porte et deux autres se placèrent en faction devant l'entrée de l'appartement. Leur chef paraissait avoir la trentaine. Il examina l'appartement. Comme ceux de Xichang et de Luoji, les écrans étaient tous éteints sur ses vêtements. Quelque chose d'autre les mit à l'aise. L'officier s'exprimait dans un chinois ancien, impeccable, sans utiliser de mots anglais.
« Guan Chenming, du département de réalité virtuelle du Bureau de la Sécurité publique. Je vous prie de m'excuser pour notre arrivée tardive, nous avons fait preuve de négligence. Le dernier cas de ce type remonte à il y a un demi-siècle. »
Il s'inclina respectueusement devant Xichang.
« Grand ancien, je vous présente mes respects. De nos jours, rares sont les officiers de police de votre qualité. »
Tandis que l'officier Guo parlait, Luoji et Xichang remarquèrent que toutes les fenêtres d'information de l'appartement avaient été éteintes. La feuille avait été manifestement coupée du monde ultra-connecté de l'extérieur. Les deux autres policiers s'affairaient. Luoji aperçut dans leurs mains un objet qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, un ordinateur portable, à la différence près que celui-ci était aussi fin qu'une feuille de papier.
« Ils sont en train d'installer un pare-feu dans votre appartement, » expliqua l'officier. « Rassurez-vous, vous êtes maintenant en sécurité. Par ailleurs, je vous garantis que vous obtiendrez un dédommagement de la part du Bureau municipal de la sécurité publique. »
Xichang compta sur ses doigts.
« Ça fera le quatrième dédommagement aujourd'hui.
Je suis au courant. Beaucoup de gens appartenant à différents bureaux ont dû démissionner à cause de cette affaire. C'est pourquoi je vous demande votre collaboration, car je suis susceptible de connaître le même sort qu'eux.
Je vous remercie par avance, » dit l'officier Guo en s'inclinant une nouvelle fois devant les deux hommes.
« Ne vous faites pas de bile, on a compris, » dit Xichang. « J'ai déjà connu ça. »
« Vous avez besoin qu'on vous résume la situation ?»«
Non. Vous êtes en réalité suivi depuis votre déclaration. C'est de la pure négligence de notre part. »«
Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ?»«
Killer 5.2. »«
Quoi ?»«
Un virus informatique lancé sur le réseau par l'organisation Terre Trisolaris il y a un siècle environ, pendant la Grande Crise. Il a connu par la suite plusieurs actualisations. »«
C'est un virus meurtrier. » Tout d'abord, il établit l'identité de sa cible grâce à plusieurs moyens, notamment par l'intermédiaire de la puce implantée dans le corps des individus. Une fois qu'il a découvert et localisé la cible, le virus killer active tous les matériels externes possibles pour procéder à son exécution. Vous avez pu être directement témoin aujourd'hui de son mode opératoire. C'est comme si le monde entier voulait votre mort. À l'époque, certains appelaient ça un sortilège moderne. Pendant un temps, il a même été commercialisé, il se vendait au marché noir. Il n'y avait qu'à entrer l'identité de votre cible et mettre le virus en ligne. Même si votre victime arrivait à échapper à la mort, sa vie dans la société devenait un calvaire.
Le milieu du crime a déjà atteint ce niveau-là ? Chapeau !
S'exclama Dashi.
Comment se fait-il qu'un logiciel aussi ancien soit encore en application aujourd'hui ?
Luoji avait du mal à y croire.
Vous savez, les technologies informatiques ont cessé d'évoluer depuis longtemps déjà. Les logiciels du siècle dernier sont encore tout à fait compatibles avec le système actuel. À son apparition, le virus killer a tué beaucoup de gens jusqu'au leader d'un pays. Mais plus tard, les logiciels antivirus et les pare-feux ont réussi à le contrôler et il a peu à peu disparu. Toutefois, cette version de killer a été programmée spécifiquement pour attaquer le docteur Luoji. Comme sa cible était en état d'hibernation, il n'a jamais eu l'opportunité d'agir et est donc resté à l'état latent. Il n'a par conséquent jamais été détecté et enregistré dans les bases de données du système de sécurité informatique. C'est seulement depuis le réveil du docteur Luoji que Killer 5.2 s'est activé pour accomplir sa mission. Simplement, ses créateurs ont disparu depuis déjà un siècle.
Ainsi, ils essayaient encore de me traquer il y a un siècle. Remarqua Luoji.
Il fut à nouveau assailli par une pensée qui était déjà apparue dans son esprit, mais il s'empressa de la chasser.
En effet, le point crucial, c'est que cette version du virus killer a été programmée spécialement pour vous. Il n'avait jamais été activé à ce jour. C'est pourquoi lui aussi était resté jusqu'à récemment en hibernation.
Alors maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Demanda Shitsiang.
Nous sommes en train de supprimer Killer 5.2 de tout le système, mais cela demande un peu de temps. D'ici que nous ayons terminé, il reste deux possibilités. Premièrement, donner provisoirement au docteur Luoji une fausse identité, mais nous ne pouvons pas garantir sa sécurité à 100%. Il y a même le risque que de graves conséquences se produisent. La technologie de logiciel de l'OTT était très sophistiquée et Killer 5.2 a sans doute en mémoire d'autres particularités de sa cible. Il y a un siècle, une affaire a eu un grand retentissement. Un individu a tenté de changer d'identité pour échapper au virus, mais Killer a activé un mode de reconnaissance flou et a tué simultanément plus de 100 personnes, dont la cible elle-même. Il existe une autre possibilité que je vous recommande. Allez vivre quelque temps à la surface. Là-haut, il n'y a aucun matériel que le virus Killer 5.2 puisse manipuler.
Je suis d'accord, acquiesça Shitsiang. Même sans ça, je serais bien allé faire un tour à la surface.
Qu'y a-t-il à la surface ? Demanda Luoji.
La plupart des hibernautes habitent là-haut. Ils ont du mal à s'adapter à la vie ici, expliqua Shitsiang.
En effet, vous devriez y rester quelque temps, répéta l'officier Guo. Beaucoup d'aspects de la société actuelle, politique, économie, culture, mode de vie ou relations entre les sexes, ont fondamentalement changé en 200 ans. Cela prend du temps avant que nous puissions nous intégrer.
« Mais vous y êtes bien arrivé, vous !»
affirma Shitsiang en observant l'officier Guo. Luoji et lui avaient noté son emploi du pronom « nous ».«
J'ai été hiberné à cause d'une leucémie. »
« J'étais encore jeune quand je me suis réveillé, j'avais 13 ans, » sourit Guo Chenming. « Mais les gens d'ici ont parfois du mal à imaginer les difficultés que j'ai pu rencontrer. Je ne sais pas combien de fois j'ai dû suivre des traitements psychiatriques. »
Parmi les hibernautes, beaucoup arrivent finalement à s'adapter à la vie moderne comme vous ? » demanda Luoji.
« Oui, mais on peut très bien vivre très confortablement à la surface. »